Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour une demi-heure de pop culture sur Radio Judaïka. Dans les minutes qui suivent, nous retrouverons une interview de la fille de Chang, le personnage de Tintin et le Lotus Bleu, et bien plus tard de Tintin au Tibet. Mais pour l'heure, c'est le moment Shirim, Ayu Lailot, qu'on pourrait traduire par « Il y eut des nuits », un titre de Lola March, un groupe de musique indie-pop originaire de Tel Aviv. Un groupe fondé en 2013 par Yael Shoshana Cohen, qui chante d'une très belle voix, et de Gilles Landau à la guitare et au clavier.
Shirim. Ayu Lailot, ani otam zocheret, ani otam ad sof yamai esa. Gamish olim, ben dgan yalech ineret, amda eklat chayai amusa.
Yes, sir.
si vous intéressez à la bande dessinée et que vous allez sur l'excellent site actuabd.com, un site dirigé par mon ami Didier Passamonique, où vous retrouverez toutes sortes de critiques d'albums, mais aussi des podcasts. Aujourd'hui, un podcast passionnant, Jean-Charles Louis de Tornay interroge la propre fille de Chang et Dominique Maric à l'occasion d'une exposition, mais également, bien sûr, de la ressortie ces derniers temps du Lotus Bleu dans la première version réalisée par Hergé. Certainement l'un des chefs-d'œuvre du maître de la ligne claire. Une parution amplifiée par la publication d'un livre consacré à Chang et coécrit donc par les deux invités.
Un jour, un podcast.
On avait fait un livre de l'édition Moulassa, le titre étant « Comment l'amitié a déplacé la montagne ». Et ce livre met l'accent vraiment en présentant la situation en Chine dans le 20e siècle, où Chang a fait sa carrière artiste. Le livre qu'on fait maintenant avec Dominique, c'est on met l'accent sur la carrière artiste voyageur Pompei Chang.
D'une part, il y a Yifei qui est la fille de Chang, qui forcément avait les documents, énormément d'archives qui permettaient de constituer le fil rouge de ce livre. Et quant à moi, ben, avec ça, j'ai essayé d'en faire un récit vivant, dynamique, qui raconte effectivement le parcours d'un artiste chinois dans les années 30, non seulement en Belgique et sa fameuse rencontre avec Hergé, mais aussi le fait qu'il va voyager dans pas mal de pays d'Europe. Il va aller dans les musées et il va en sortir évidemment toute une série d'enseignements que par la suite il va remettre, si je peux dire, dans son propre style et développer son art par rapport à tout ce qu'il avait vu. Oui, en fait, donc l'idée c'était, bien sûr, on parle de Chang, mais on ne peut jamais dissocier cette rencontre avec Hergé. Donc au début, enfin, une partie du livre est consacrée évidemment à cette rencontre et tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire cet album du Lotus Bleu, qui est un album exceptionnel dans la carrière d'Hergé. Et puis bien sûr, après, ces deux personnes, ces deux jeunes artistes se quittent, Chang retourne en Chine, et alors là, je dirais que Yifei prend la relève par rapport à tout ce qu'on pouvait dire de son papa une fois sorti de la Belgique.
Ce livre est mon devoir de mémoire. Un vendredi 4 mars 1983, j'ai travaillé à Shanghai, à l'Institut, et ce jour-là, j'ai la réunion le matin. Et quand je sors de la réunion, mes collègues m'ont dit, Fifi, voilà, ton père est là, il t'attend depuis un peu de temps. Et je vois mon père, tout tristement, il me dit, hier soir, à minuit, j'ai reçu la photo, le télégramme, et Hergé est mort. Il a les yeux mouillés. Alors, en Chine, à l'époque, Hergé et Tintin étaient moins connus comme ici. Et alors, il a présenté un peu les aventures de Tintin, surtout Lotus Bleu, puisque tous mes collègues sont autour de nous. Et alors, tout le monde est très ému. En Chine, à l'époque, on vient de sortir la révolution culturelle. On n'a pas autant de connaissances sur l'œuvre de Hergé, surtout pas sur l'amitié de Hergé et mon père. Et alors, je promets à mon père, je vais suivre ton chemin. Je vais ramasser tous les archives le plus complet possible pour présenter cette histoire. Généralement, dans beaucoup de documents ou les livres ou dans les journaux qu'on présente, ah tiens, et un étudiant à l'Académie Beaux-Arts de Bruxelles, il a rencontré Hergé, puis il y a Lotus Bleu. Ou certains disent, oui, tiens, c'est un petit Chinois qui était sauvé dans le Yangtze, dans la rivière. Donc ça se tient. Et jusque-là, c'est étudiant chinois à Shanghai, à Bruxelles, pardon. Et voilà, après, il y a Lotus Bleu. Ah, souvent, mon idée, c'est de vraiment montrer pourquoi l'histoire est émouvante, pourquoi l'amitié est solide, pourquoi cette amitié a fait naître Lotus Bleu, le chef-d'œuvre de Hergé.
Il fallait partir de quelque chose de différent. Et en fait, il y a toujours quelque chose qui est montré dans les expositions. C'est la page du journal de bord de Chang, ouverte au 1er mai 1934. C'est le jour où il rencontre pour la première fois Hergé. Mais par la suite, on ne connaissait pas évidemment ce qu'il y avait dans ce fameux journal. Donc en fait, le véritable fil conducteur, là c'est très personnel, ça n'a plus rien à voir avec Hergé, c'est le livre de bord de Chang qui explique tout ce qu'il a fait non seulement en Europe, toutes ses observations, ses découvertes de musées, ses rencontres, et tout ce qui l'a amené à devenir l'artiste qu'on lui connaît. Donc voilà, il y a comme ça ce double focus. D'une part, bien sûr, la rencontre Hergé, l'influence, et puis il y a tout ce que Chang a pu faire par la suite. Et ça, c'était évidemment, pour la première fois, c'est la parole de Chang. Yifei parlait tout à l'heure d'une autre biographie qui est sortie il y a un certain nombre d'années. Il est bien évident, je dirais bien que ces deux livres sont complémentaires, parce qu'on peut écrire 50 livres ou 100 livres ou 600 livres sur quelqu'un, on ne le connaît peut-être jamais assez. Mais en tout cas, ici, on apporte quand même quelque chose, c'était le but de départ entre Yifei et moi, de faire quelque chose de plus intime, de plus personnel. Qu'y a-t-il de plus intime et de plus personnel que la parole de la personne elle-même ? Dieu sait s'il y a eu des livres sur Hergé, mais souvent, même les grands tintinophiles disent « Hergé a probablement vu cette exposition, etc. » Ils n'étaient pas là pour le voir. Alors qu'ici, c'est lui qui témoigne. Et ça, c'est l'originalité, à mon avis, principale de ce livre. Et je veux dire qu'il a bien fait la jonction entre l'art occidental et l'art chinois. C'était, je crois, un des tout premiers à faire ça. En Chine, ce n'était pas du tout connu. Comme au niveau de la peinture, il y avait une peinture chinoise traditionnelle qui était souvent mélangée avec de la calligraphie. Enfin, ça faisait partie intégrale de l'art chinois. Et lui, il a amené la peinture à l'occidental, si on peut dire, mais en y mettant évidemment sa propre veine, sa propre inspiration. Et à ce niveau-là, il a vraiment fait œuvre de précurseur. C'est vraiment un précurseur de tout ça. Ben, l'exposition, je crois que les gens qui vont la voir ont beaucoup de chance, parce que c'est vrai que les planches du Lotus Bleu, on ne les voit pas très souvent. Il y en a quand même une série qui sont exposées ici. Chaque planche est une pure merveille. Hein. C'est un album, évidemment, c'est un sommet dans les albums. Donc il y a des planches originales à l'encre de Chine, bien entendu. Et puis alors, il y a des bleus de coloriage qui, eux, ont servi pour la version coloriée de 1946, donc la première version en couleur. Il y a des feuillets de documentation, il y a des ouvrages. Donc c'est un peu la cuisine intérieure d'Hergé qui montre comment il est arrivé à faire cet album. Donc au-delà évidemment des conseils très, très judicieux de Chang, il avait évidemment sa documentation aussi, et tout ça montré dans cette salle numéro 8. Donc voilà, je crois que c'est une petite exposition, mais qui vaut vraiment le détour, parce que les planches du Lotus Bleu, c'est un choc graphique et esthétique absolument incroyable. Et là, on sent vraiment, comme je dis, la leçon de l'Orient. On sent que Hergé était influencé par Chang et qu'il dessine de manière beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus souple. Il a appris à tenir le pinceau d'une autre manière. Il n'a pas peur du vide. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Donc, il y a des décors qui sont très dépouillés, mais tout ça donne une esthétique assez incroyable à cet album.
Un podcast disponible sur le site ActuaBD, et vous verrez qu'il y en a plein d'autres qui sont passionnants.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Allez, il est temps d'entendre Tintin por Tintin, la célèbre chanson brésilienne interprétée par João Gilberto.
Bom 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 babo, bailo bailo bam bam bam, bailo bailo bam bam bam. Tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Você tem que devolver o que era meu bem meu. Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar. No rei, um rei. Salve o rei que vai chegar. Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar. Bom, 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 babo. Bailo, bailo, bam, bam, bam. Bailo, bailo, bam, 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 bam. Amor não tem fim. Que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Você tem que devolver o que era meu bem meu. Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar. Morrer um rei. Salve o rei que vai chegar. Não não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar. Bom, 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 babô, bailo, bailo, bam, 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 bailo, bailo, bam, bam, bam. Você tem que dar, o que prometeu, meu bem. Mande o meu anel que te falta, eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Você tem que devolver o que era meu, bem meu. Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar. Morrer um rei, salve o rei que vai chegar. Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar. Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar, me bom.
Pourquoi le rose, c'est pour les filles ? La réponse est à suivre.
À votre avis, de quel côté sont les jouets pour les filles ? Et pour les garçons ? Évidemment, les jouets pour les filles sont dans le rayon où le rose domine. Mais pourquoi est-ce si évident ? Pourquoi depuis que ma fille est née, on lui offre principalement des vêtements roses ? Pourquoi le rose, c'est pour les filles ?
On Wednesdays, we wear pink.
Il y a quelques centaines d'années, le rose était plutôt attribué aux hommes. Il était considéré comme une sous-couleur du rouge, couleur de la masculinité par excellence, qui depuis l'Antiquité symbolise pouvoir, autorité et guerre. Le mot rose n'existait pas d'ailleurs, et il n'y a pas d'adjectif pour désigner la couleur rose en grec ou en latin. On parle plutôt d'incarnat. On porte peu de roses jusqu'à la Renaissance et l'arrivée en Europe du bois de Brésil qui va permettre de fixer cette couleur sur les textiles.
Et ça va lancer une mode vraiment pour le rose à partir de la Renaissance, mais qui est plutôt une mode des élites et une mode pour les hommes. En France, à l'époque des Lumières, Madame de Pompadour va mettre le rose à la mode à la cour, mais ça n'a rien de spécifiquement féminin.
Le bleu, lui, est à partir du XIIe siècle une couleur de plus en plus attribuée aux femmes, en référence au manteau bleu de la Vierge Marie.
Même s'il n'y a pas de couleur spécifique pour les deux sexes au Moyen-Âge, de fait, le rouge peut avoir une connotation plus masculine que le bleu qui va être porté volontiers par les femmes.
Quant aux enfants, ils sont habillés le plus souvent en blanc, symbole de pureté et d'innocence. Également bien plus pratique à laver, à une époque où l'on faisait bouillir les tissus tachés. On observe de temps en temps, lors des baptêmes par exemple, une transposition des codes couleurs des adultes sur l'habillement des enfants.
Pendant très longtemps, on ne sexualise pas d'ailleurs les bébés et les enfants. Avant 3-4 ans, on habille les enfants de la même manière. Et tout de même, on voit notamment dans certaines coutumes du folklore français, on va parfois mettre un petit ruban sur les vêtements blancs pour différencier les sexes. Et ce sera plutôt rose ou rouge pour les garçons et plutôt blanc ou bleu pour les filles.
Petit à petit, à la fin du Moyen-Âge, cette symbolique des couleurs tend à s'inverser complètement.
Oh non, non, pas en rose, mais en bleu. Ma chère papa-même, moi je préfère le rose. Moi je dis en bleu. En rose.
Une des causes de ce retournement, c'est la réforme protestante qui désigne des couleurs plus dignes que d'autres. Le noir, le gris, le brun et le bleu. Le bleu est de plus en plus assimilé au pouvoir, et donc aux hommes. Quant au rouge, moins bien perçu, il perd sa symbolique d'autorité pour prendre celle de l'amour.
Et jusqu'au 19e siècle, en gros, les femmes qui mettaient une belle robe, même dans les milieux populaires, c'est souvent une robe rouge. Hein, les robes de mariage, notamment, hein, même dans les milieux paysans, étaient plutôt rouges.
Ce choix de couleur s'explique surtout par des raisons techniques, car le rouge se fixait mieux sur les tissus. On trouve en 1810 une assimilation du rose à la femme dans le traité des couleurs de Goethe.
Le sexe féminin, dans sa jeunesse, est attaché au rose et au vert d'eau.
Il faut attendre le 19e pour que les vêtements colorés se démocratisent avec le développement de la chimie des couleurs. L'opposition bleu versus rouge se transpose alors aux enfants dans des teintes plus douces. Bleu ciel pour les garçons, rose ou rouge pâle pour les filles.
Cette mode du rose pour les filles et du bleu pour les garçons ne se fixe qu'à la toute fin du 19e siècle, plutôt dans les pays anglo-saxons, et chez les élites, hein, principalement, notamment la bourgeoisie, et qu'il faut attendre simplement les années 1930, avec le développement du marketing, avec aussi la possibilité là, d'avoir des vêtements qui tiennent de nombreux lavages et qui vont être accessibles à des catégories populaires, pour que cette mode commence à se répandre vraiment dans les pays européens.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le rose devient une valeur sûre des publicités ciblant les femmes au foyer. Mais c'est 30 ans plus tard qu'une avancée technologique va systématiser le rose pour les filles.
For the most part, people now just refer to that 20-week sonogram as the gender sonogram, as if that's a really important thing to know about the baby. And part of the reason why this became so popular in a consumer society is now you know what clothes to buy, you know how to decorate the nursery, you know what toys to buy the little baby.
C'est donc à partir du milieu des années 80 que le marketing du rose pour les filles explose.
Oh, du rouge à lèvres.
Certes, les jouets sont traditionnellement genrés, mais leur couleur auparavant importait peu. C'est le développement de stratégies marketing visant les enfants qui va pousser cette dichotomie à l'extrême.
En gros, à partir des années 80, dans ce contexte de mondialisation généralisée, d'essor aussi du capitalisme, il y a eu peut-être la volonté de la part notamment des marchands de jouets de plutôt d'avoir un petit vélo rouge finalement dans une famille qui va se transmettre entre le petit frère, la grande sœur, etc. Et bien finalement, d'avoir un garçon qui va avoir son vélo bleu, une fille qui aura son vélo rose, permet de vendre finalement davantage.
En parallèle, les caractéristiques prêtées au rose s'affirment en Occident. Le rose est devenu une couleur douce, sensible et féminine. Tellement féminine qu'il est très rare aujourd'hui de voir un homme porter du rose.
Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink.
Why am I Mr. Pink?
Because you're a faggot, all right?
If a boy wears pink, if a man wears pink, it's not just a color. You know, it's why are you wearing pink? So they need to explain it. It's sort of like if you looked at 150 years ago, in most Western countries, and you saw someone wearing all black, a woman wearing all black, you'd say, oh, I'm sorry, who died? Now it's just a color, right? And pink was once just a color. Now, right now, it is not just a color, it always means something.
Finalement, il est plus facile pour ma fille de porter du bleu ou du marron que pour un petit garçon de porter du rose. Pour eux, le rose est encore souvent une couleur taboue. Une couleur qui renvoie à un genre ou à une orientation sexuelle auquel certains hommes ont peur d'être associés. Oh !
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Oh, quel air étrange.
Ma foi, ça ne m'étonne pas. J'ai changé si souvent depuis ce matin que je ne sais plus qui je suis.
Et vous croyez que je le sais? Expliquez-vous, je vous prie.
J'aurais beaucoup de difficultés à vous expliquer qui je suis, parce que je ne suis plus moi-même, vous saisissez?
Je ne saisis rien.
Je peux pas expliquer plus clairement, c'est pas plus clair pour moi.
Jésus! Ça m'a l'air très saugrenu.
Et vous? Je pense que vous devriez me dire... Quel est votre nom?
Renoncez-y, grec.
Oh, mon Dieu. C'est difficile de voir clair, tout est embrouillé.
Laisse tant que ça.
Pour moi, ça l'est.
Pour qui?
Tenez, je ne saurais même plus redire ma leçon d'hier.
Récitez.
Oh, avec plaisir. C'est l'heure où le gentil mille pattes sort butiner
assez
dans la...
Assez. vous accumulez les erreurs grossières. Écoutez. Oh, oh. Oh. C'est l'heure de l'eau crocodile. Languissamment s'étire et baille et fait glisser les eaux du Nil sur l'armure de ses écailles. L'eau du Nil. L'eau du Nil. Il ouvre gaiement sa gueule mutine et sort une griffe ainsi qu'un gros chat. Avale trois poissons qui passaient par là et va digérer sur l'onde opaline.
C'est une poésie très originale, je ne l'avais jamais entendue.
Je sais, c'est très beau.
Si vous voulez mon avis...
Tu-tu-tu. Je vous ai assez vu. Attendez, fillette, revenez. J'ai une chose importante à vous dire.
Encore? Alors?
Jeune fille, gardez votre sang-froid.
Ainsi se termine notre émission du jour. Merci de nous être fidèles, merci de tous vos petits mots d'encouragement qui font toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous à l'antenne demain à 14h, mais vous savez que cette émission est podcastable sur le site de la radio. Bonne suite de l'après-midi à l'écoute de nos programmes.